Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie de Joël Miachon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici pour nous présenter la nouvelle édition de Voix d'Exil qui aura lieu autour de Bordeaux et à Bordeaux aussi, et qui s'intitule cette année « Tout un art ». Alors, cet événement a lieu du 18 au 21 octobre 2018. En quelques mots, est-ce qu'on peut nous résumer ce titre emblématique « Tout un art » pour cette année ?
Bien, en fait, sur ces huitièmes rencontres Voix d'Exil, qu'il faut peut-être situer un petit peu dans le temps, et c'est une initiative qui a été prise d'abord par des offices de tourisme de Dieulfi, de Bordeaux et de Soues, pour qu'il y ait autour du point de départ du sentier sur les pas des Huguenots, et qui remonte de Poët-Laval jusqu'en Allemagne, et pour qu'il y ait des événements culturels. Voilà, et des événements culturels sur sentier de fête touristique et historique. Voilà. Alors, nous avons eu par le passé plusieurs thématiques. Nous en avons eu autour des Vaudois, ces pré-protestants en quelque sorte, quelque temps avant, qui ont été pourchassés un peu partout et qui sont passés aussi dans notre région. Nous en avons eu autour des exilés de la guerre d'Espagne. Nous en avons eu l'an passé autour de ces Huguenots qui venaient des Cévennes et qui passaient à Livron, le Rhône, et qui ensuite se retrouvaient jusqu'à Die, justement, avant de prendre le grand chemin qui leur permettait d'aller en Allemagne. Et cette année, en fait, nous nous sommes trouvés devant cette idée qu'il y avait, parmi tous ces gens qui viennent d'Afrique, qui viennent de Syrie, qui viennent d'assez loin de chez nous et qui cherchent un refuge, et il y avait tous ces gens ont un métier. Ils viennent pas chercher un métier chez nous, ils viennent trouver un refuge, ils viennent trouver assistance. Et parmi tous ces métiers, bien, il y a des artistes. Il y a des gens qui viennent avec eux, qui apportent tout leur savoir-faire, toutes leurs compétences autour de la création. Alors artistes, cinéastes, écrivains, poètes, musiciens, plasticiens. Et avec leur art, ils acquièrent un espace auprès de nous pour dire ce qui... l'inaudible, l'indicible, pour... parler de leur douleur, parler de leur pays, parler de leur culture. Voilà. Et nous en transmettre. Et d'ailleurs, nous en avons depuis des siècles recueilli beaucoup de ces cultures amenées par des exilés, tous plus ou moins célèbres, certains qui sont repartis d'ailleurs plus loin après être passés en France.
Alors, Voix d'Exil, c'est un rappel, une mémoire aussi donc, de ces fuites et de cet exode des Huguenots dû à la révocation de l'édit de Nantes,
oui.
Et qui sont partis donc, en Allemagne et à la fois et en Suisse, je crois.
Non oui, oui, ils partaient en Allemagne, ils passaient à l'époque par la Savoie, qui n'était c'est pas partie de la France. Et avec plus ou moins de difficultés selon les relations entre le duc de Savoie et le royaume de France. Et ensuite la Suisse et il se retrouvait en Allemagne avec là aussi déjà une immigration choisie. C'est-à-dire qu'en fonction de leurs compétences et de leur qualité, certains étaient retenus d'ailleurs tout simplement du côté de Genève. D'autres allaient en Allemagne. Certains sont même allés beaucoup plus loin puisqu'ils s'étaient renvoyés par les Allemands qui n'avaient pas besoin d'eux. Ils étaient envoyés en Hollande, parfois. Et en Hollande, un certain nombre d'entre eux ont été embarqués pour aller faire de l'agriculture dans une autre zone tempérée en Afrique du Sud. Voilà, parce que les bateaux hollandais avaient des difficultés à accoster sur les côtes africaines, donc hein, on est au XVIIe siècle, hein, pour avoir de la nourriture et une nourriture qui permette d'avoir des vitamines C, donc tout le scorbut sur les bateaux. Et ils voulaient, pour aller aux Indes, ils voulaient avoir des relais. Et un certain nombre de Huguenots français et d'autres d'ailleurs se sont retrouvés dans la région du Cap. Et ont formé des colonies. Voilà, et nous avons retrouvé des tombes de l'ancienne famille de Bourdeaux au Cap. Voilà, et ils ont apporté avec eux, par exemple, des ceps de vigne, d'où l'existence de vignobles dans la région du Cap en Afrique du Sud, qui sont les mêmes vignobles que les côtes du Rhône. Voilà, qui sont maintenant travaillés autrement, bien sûr, mais pour donner un exemple hein, du fait que tous ces gens qui partent sont d'ailleurs souvent pas les plus pauvres, et c'est encore le cas aujourd'hui dans les migrations. Hein, et ils emmènent avec eux donc des savoir-faire, et de fait, ces savoir-faire circulent, sont mélangés, sont un apport pour les pays d'accueil, hein, ce qui est le cas pour nous. Aujourd'hui, quand nous accueillons un certain nombre d'Africains, de Syriens, d'Irakiens, d'Afghans.
Ce sont 4 jours, hein, à commencer par jeudi, avec des propositions à commencer à Soud de randonnée pour la journée, entre 9h et 16h30. Cette randonnée sera un parcours initiatique à ce qui s'était produit il y a quelques siècles.
Oui, en fait, cette randonnée, c'est l'inauguration d'une boucle particulière qui se raccroche au chemin d'exil des Huguenots et qui est une boucle qui intègre la forêt de Soud. D'autant plus que dans cette forêt, il y avait donc un lieu de culte au désert, de culte à l'abri des dragons du roi. Même si parfois ça a tourné au drame, mais parce que c'était pas forcément toujours très bien protégé. Et là, il y a une grande randonnée qui part dessous et qui se terminera vers 16-17 heures au gîte du col de la Chaudière, en passant par la grande combe de la forêt de Soud. C'est donc une randonnée très très sérieuse, très
un peu. Voilà, sportive.
Un peu sportive, voilà. Avec un arrêt un petit peu important à 2 endroits. D'abord, au lieu habituel où tout le monde s'arrête dans la forêt, à l'auberge des Dauphins, et où là, il y aura une petite inauguration de ce nouveau chemin. Et un autre arrêt plus historique vers le lieu du culte au désert, et puis quelques arrêts botaniques et historiques plus haut. Voilà. Cette randonnée est conduite par Bernard Forerou, qui est une personnalité qui est avec nous depuis longtemps dans cette aventure. Et tout le monde se retrouvera avec d'autres personnes au gîte du col de la Chaudière le soir, à 18h. Pour l'inauguration de ces 8e rencontres.
Cette inauguration sera autour de la littérature de l'Église à l'exil, avec en invité Rina Santoro.
Oui, l'Église à l'exil, c'est un travail fait par les élèves de l'école de Soud, par des enfants de l'école de Soud. Il y en a deux. Qui d'entre eux qui viendront présenter à notre public ce soir-là le travail qu'ils ont fait globalement. Bernard Forerou fera une présentation globale. Et 2 enfants feront une petite lecture de ce qui a été réalisé par la classe. Ça, c'est la première partie, hormis la partie officielle avec des élus, enfin, le petit discours d'accueil. Et ensuite, nous recevons donc Rina Santoro, Rina Santoro, qui a écrit plusieurs ouvrages, dont Caramilla, qui est en fait un ouvrage roman un peu autobiographique sur son arrivée depuis les Pouilles, au sud de l'Italie, en France, dans la région lyonnaise, quand elle avait 11 ans, pour rejoindre son père. Donc elle venait avec sa famille. Son père avait trouvé un travail de maçon, comme beaucoup d'Italiens réfugiés dans les années... depuis longtemps, en fait, mais dans les années 50, entre autres. Et en fait, là, Rina Santoro parle de cette affaire-là, de cette expérience-là ancienne, et puis de son retour au pays. Quand elle a voulu y retourner, donc les Pouilles... Et les Pouilles, c'est la fin de la botte de l'Italie, là-bas, tout à fait au bout. Et là, aujourd'hui, arrivent les réfugiés d'Afrique, sur les plages, avec plus ou moins de bonheur ou de malheur. Et voilà, et elle est confrontée à la fois à au retour à ses racines que finalement elle n'a jamais voulu perdre. Et d'ailleurs, aucun réfugié, exilé ou migrant ne souhaite perdre ses racines, et en même temps elle est confrontée à ces arrivants-là et à la façon dont les gens de son ancien village font accueil ou pas accueil. Voilà. Et elle viendra nous parler de cet ouvrage.
Ce devoir de mémoire dédié aux Huguenots, est-ce que de nos jours, il y a toujours une nécessité de rappeler ce pan de l'histoire ?
Il est toujours important de rappeler les pans de l'histoire qu'on voudrait un peu cacher. Même si, bien sûr, la répression du protestantisme en France n'est pas cachée dans les livres d'histoire. Mais il faut surtout lui donner, un aspect un peu plus... Enfin, des éléments un peu plus concrets, aux proches des gens, plutôt que simplement des dates. Et la révocation de l'édit de Nantes, tout ça, ce sont des vécus au niveau des personnes, exactement comme on en a aujourd'hui. Donc ça permet toujours de rebondir sur l'actualité et de faire prendre conscience que d'une part, l'immigration, c'est un phénomène humain depuis le début de l'humanité et que la circulation des gens et des personnes et leur accueil par les autres fait toujours partie de ce que doivent vivre les gens tous les jours, toutes les années, tous les mois, et que tout ce qui est lié aux situations politiques temporaires, momentanées, n'empêche pas le simple citoyen d'avoir une attitude d'accueil. Voilà, et ça a toujours été le cas. Ça nous permet de rebondir sur le lendemain, sur le séminaire.
À Bordeaux, donc, toute la journée, hein, à partir de 9h30, avec une petite interruption de repas à midi, ce séminaire qui sera autour des réfugiés d'hier et d'aujourd'hui, deux points, des indésirables.
Oui, depuis le début des rencontres Voix d'Exil, il y a toujours eu une journée de réflexion avec des universitaires, avec des spécialistes, avec des gens qui apportent toutes leurs compétences en histoire, pas plus exactement. Cette année, il se trouve que nous avons, au mois de novembre, ce ne sera pas célébré d'ailleurs, parce qu'il y aura d'autres célébrations, et puis celle-ci n'est pas très très reluisante, ce sont les décrets d'Édouard Daladier, ministre de l'Intérieur de 1938, après le Front Populaire. Et ces décrets consacré, si je puis dire, si le mot n'est peut-être pas très bien choisi, mais on consacrait cette idée qu'il y a des gens qui sont venus en France et qui sont indésirables, qu'il faut rejeter. Alors, ce n'était pas nouveau, hein, il y a toujours eu depuis fort longtemps, donc les Huguenots, mais beaucoup bien après, pour les gens qui sont venus travailler en France, polonais, portugais, surtout entre les deux guerres, c'était essentiellement italien et polonais d'ailleurs, et espagnol. Et il y a toujours eu des allers-retours, Il ne faut pas oublier que dans les années 30, on ne renvoyait pas des charters comme M. Pasquale a fait dans les années 90. On ne renvoyait pas des charters avec des Africains en Afrique, mais on renvoyait des trains entiers de Polonais chez eux quand on n'en avait plus besoin, dans nos mines, entre autres. Et en fait, en 1938, alors que le nazisme fait déjà ses ravages en Allemagne, le gouvernement prend un décret qui permet d'isoler, d'enfermer dans des camps des indésirables étrangers, entre autres des réfugiés anti-nazis allemands. Et donc certains grands intellectuels, je pense à Hannah Arendt par exemple, qui a été enfermée au camp des Milles du côté d'Aix-en-Provence, et en fait aussi d'enfermer des Français, pas oublier, hein, des Juifs, des Tziganes, et avant l'arrivée de l'envahisseur allemand. Hein, il faut bien se souvenir que là, c'est donc le gouvernement français et la police française qui, à l'époque, sur les ordres du gouvernement, fait ce vil travail. Hein, ça sera prolongé largement avec les républicains espagnols et avec tous les réfugiés qui fuient le fascisme partout. Voilà. Il y aura des dizaines de camps d'enfermement en France. Alors, il y a cette période et il se trouve que cette année, il y a eu un mot malheureux de quelqu'un qui n'est plus ministre de l'Intérieur depuis quelques jours, mais quand même devant l'Assemblée nationale, disant que tous ces gens qui étaient là n'avaient pas vocation à y venir et étaient indésirables. Et il nous est donc venu le fait qu'il y a toute une histoire des indésirables dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres pays, mais enfin nous sommes en France et voilà, et qu'il était intéressant d'interroger quelques spécialistes en la matière. Et en l'occurrence, là, nous aurons Philippe Anus, qui est un des responsables de l'ethnopôle de Valence, lié au Centre du patrimoine arménien. Et avec lui, cinq intervenants, donc je passerai le nom là, se reporter à notre document, hein, où, qui sont tous des grands spécialistes de l'immigration, des élèves entre autres de Gérard Noiriel, qui a écrit beaucoup sur cette question, hein, sur l'immigration dans les années 30 et 50. Et aussi une personne, mais ça je vais peut-être essayer de vous le retrouver, qui abordera un thème autour des femmes. Voilà, parce que il est vrai aussi que les étrangères indésirables et l'administration française. Voilà, et c'est important parce que les femmes ont autant que les hommes subi cette pression. Et il faut savoir d'ailleurs, par exemple, qu'il a pendant toute une période entre la fin du 19e siècle et les années 1926-27, toute femme française qui épousait un étranger qui n'était pas naturalisé, ces femmes perdaient la nationalité française. Alors en 1926-27, il fallait faire des enfants qui soient français. Donc elles ont regagné la possibilité. Mais pour dire que les femmes ont été beaucoup touchées par ces questions d'immigration et d'être indésirables.
Pour cette journée à Bordeaux, il y aura quand même pas mal de personnalités autour de l'histoire et de la sociologie. Donc on peut les citer quand même, toutes ces personnes qui vont venir.
Oui, Sylvain Bissonnier, qui est historien, hein, et coordonnateur mémoire et communication en Rhône-Alpes, et qui nous parlera justement des décrets-lois d'Aladier de 1938. Et Aurélie Oudeval, qui est docteur en histoire à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, pardon. Donc, qui nous parlera des étrangères indésirables et de l'administration française en 38-42. Anne Boitel, docteur en histoire à l'Université d'Aix-Marseille. L'enfermement et la relégation depuis le milieu du XXe siècle des populations indésirables. Et Thomas Ott, qui est anthropologue, chercheur associé au centre Max Weber, qui nous parlera des populations roms, éternelles indésirables en Europe et dans toute l'Europe. Et Lison Lenveler, doctorante en droit public de l'Université de Grenoble, Au-delà des frontières, quelle mobilisation de solidarité et d'hospitalité en faveur des exilés ? Parce que, ça c'est un point très important, parce qu'il faut savoir que quelle que soit la loi, les décrets-lois ou les décisions gouvernementales, il y a toujours une aide aux migrants pourchassés par la loi. Elle existait déjà en 1938, où y compris des municipalités, des maires ont fourni des accueils pour éviter que ces gens soient éloignés dans des camps, justement. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, et dans notre vallée, c'est particulièrement vrai, mais ça l'est aussi ailleurs, il y a une mobilisation citoyenne pour aider les gens qui arrivent, qui sont réfugiés, qui sont sans papiers, pour les aider à vivre chez nous, à trouver les moyens de gagner leur vie, parce qu'ils ne viennent pas prendre notre pain. Ils viennent pour travailler, ils viennent pour essayer de vivre mieux qu'ailleurs, mieux que dans leur pays d'origine. Et en fait, cela se traduit, je trouve, de plus en plus souvent par des initiatives de sensibilisation à tenue culturelle. Voilà. Il y a en ce moment une quinzaine autour de l'exil, et je crois qu'il y a 2 ou 3 manifestations à 10, donc toute la vallée de la Drôme et depuis même Bourg-lès-Valence, voilà, qui se termine le 13 octobre, et Voix d'exil commencera le 17. Nous sommes parfaitement complémentaires avec une autre approche. Hein. Mais approche, voilà.
Est-ce qu'il existe aussi un travail d'étude sur les fonctionnaires qui sont soumis à un devoir de réserve, mais en même temps soumis à un pouvoir répressif ?
Mais les fonctionnaires, à quel
niveau ? De tous les niveaux. Je peux parler de ceux qui travaillaient à la SNCF ou ceux qui géraient l'identité ou
la documentation civile. Oui, ça c'est un problème. Enfin, le problème des fonctionnaires qui ont à gérer ces ordres, ces lois, ces décrets. La position a toujours été sans doute assez difficile. Hein. On sait que après, c'est une question de conviction personnelle, même s'ils sont fonctionnaires. Voilà. Cela demanderait une émission, cela demanderait aussi un débat avec quelqu'un qui a été dans ces fonctions-là, hein, pour délivrer des papiers, délivrer des documents qui permettent à des étrangers de vivre ici, parce que c'est assez délicat. Bon, à titre personnel, j'ai eu l'occasion de vivre des choses de ce type avec des gens... accueillis en France, c'est souvent extrêmement compliqué. Le devoir de réserve des fonctionnaires, oui, mais le devoir aussi d'éthique arrive quand même assez souvent à prendre le dessus. Voilà. Mais là, ça serait difficile d'en dire beaucoup plus.
Ma question était peut-être plus à savoir s'il existait un travail d'historien, justement, personnes.
Oui, ça existe. Alors, par contre, là, je pourrais plus... Si, les textes d'auteurs que j'ai lus il y a quelques années en préparant des ateliers de l'Université populaire du Val-de-Drôme, c'est essentiellement Gérard Noiriel. Qui a travaillé sur ces questions, entre autres, qui a travaillé sur ces questions, mais le titre de l'ouvrage, je ne l'ai pas du tout en tête. Voilà.
Et puis, à la suite de cette journée sérieuse, hein, à partir de 21h, il y a, après le repas, donc, un concert donné par Baba Salam, avec un titre donc, de l'Occident à l'Orient Soufi, de Damas à Lyon. Alors, c'est un
C'est la porte de la paix. D'accord. Baba Salam, c'est la porte de la paix.
C'est ça aussi.
C'est le titre, voilà. Voilà. Et en fait, c'est un musicien d'origine du Moyen-Orient, syrien, je crois, et donc joueur de oud, et un musicien français. hein, de Lyon. C'est donc, ce sont des gens qui se sont spécialisés un peu dans cette musique qui cherche un peu aussi toute la réconciliation à travers le, leur art. Et le titre contient le terme soufi, puisque en fait, le soufisme à l'intérieur de l'islam est une, disons, une orientation un peu particulière et surtout extrêmement ouverte et avec beaucoup de tolérance.
Alors, les musiciens sont donc Khaled Adjarmani,
oui.
Et qui est donc au, à l'oud et au chant, et Raphaël Buillard, hein, qui est voilà. Au clarinette.
Voilà.
Oh, mais je ne m'entends pas là. Oh, oh. Et ça, ça se déroulera donc à la grande salle du château.
Du château de Poët-Sellard.
Voilà, de Poët-Sellard. Je rappelle quand même à Bordeaux, par contre, en la journée, c'était la salle des fêtes. Hein.
Voilà, le séminaire a lieu à la salle des fêtes de Bordeaux.
J'ai un mauvais contact, ça m'agace. Oh, 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 voilà. Nous passons donc samedi 20 octobre. Avant de continuer, je voulais savoir, est-ce qu'on peut peut-être passer un extrait musical de, cette, de ces artistes?
Ah oui, si vous en avez trouvé.
Je verrai bien.
Ça se trouve, hein. Non, non, mais ça se trouve effectivement. Ça se trouve sur Internet, hein, tout simplement.
Et comment avez-vous rencontrés?
Oh, ben c'est un des partenaires, parce que faut savoir que Voix d'Exil, c'est quand même un ensemble de partenaires assez important. Et entre autres, là, quelqu'un, si mes souvenirs sont exacts, c'est Sylvain Bissonnier, je pense, il me semble, qui a donné cette piste. Hein, voilà, de ce groupe qu'il connaissait. Et voilà, c'est après, quand on fait des réunions de préparation, on échange, hein, puisqu'on est quand même d'horizons assez différents et variés, et on trouve comme ça des gens. Voilà, et c'était intéressant d'avoir un peu de musique, parce que ça n'arrive pas toujours autour de ces voies d'exil.
Yeah. You see, it's just like a park.
Et nous passons au samedi 20 octobre à Dieulefit pour commencer avec, et pour la journée même, hein, de toute façon tout se déroulera à Dieulefit, à la halle, donc à 10h, 2 heures de rencontre avec l'artiste Annie Abbas et son œuvre écrit, peinture, donc est-ce que vous pouvez nous présenter d'ailleurs Annie Abbas?
Alors voilà, Annie Abbas, c'est un voilà. Il y a un grand concours de circonstances, c'est-à-dire que pendant ces voies d'exil, tout un art, nous avions souhaité, excusez-moi, que le plus grand nombre possible d'expressions artistiques soient représentées. Hein. Donc l'écriture, hein, on a vu les écrivains, il y en aura d'autres plus tard, et le conte. Ça sera la dernière journée, le cinéma et les arts plastiques. Et la musique, donc, on vient de le voir. Alors, sur les arts plastiques, on a beaucoup cherché, et par un enchaînement de circonstances liées, entre autres, à des cinéastes, puisque nous cherchions aussi donc, des films documentaires, et bien, nous avons pris contact avec Annie Abbas. Alors, Annie Abbas est un dessinateur, peintre, syrien, mais en fait palestinien, c'est-à-dire syrien parce qu'il vient de Syrie, et il est né dans le camp de Yarmouk en Syrie, qui est un des plus anciens camps de réfugiés des Palestiniens depuis 1948, hein, depuis l'établissement de l'État d'Israël, qui malheureusement a chassé de nombreux Palestiniens de leur terre. Donc Yarmouk, très grand camp. Et Annie Abbas est née là. Simplement, il a continué à s'exprimer, même pendant ce qu'il faut bien appeler la guerre civile syrienne actuelle, qui dure maintenant depuis 7 ans. Hein, il a continué à dessiner. Et à s'exprimer par le dessin sur la situation. Et en particulier du point de vue des premiers résistants au régime avec les grandes manifestations de 2011, qui avaient un emblème qui était une fleur. Voilà. Et à un moment donné, l'un de ces dessins n'a pas plu au régime syrien du tout. Et quoi qu'il ait été dans un camp palestinien, il a été fortement inquiété et il est parti en Europe. Il est arrivé en Suisse et où il est maintenant en situation régulière. Et nous l'avons contacté pour qu'il vienne présenter un certain nombre de ses œuvres à Dieulefit et en parler. Voilà, alors ce sera peut-être un petit peu court par rapport à l'ampleur de son travail, mais il y aura donc une rencontre avec le public qui se fera avec une interprète, parce que Annie Abbas voilà, est arabisant et parle anglais, comme beaucoup de gens du Moyen-Orient, mais ne maîtrise pas complètement le français, mais ça n'a pas d'importance. On va pouvoir discuter avec cet homme de sa situation, de ses dessins, et de justement ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'il apporte de sa culture et ce qui fait joindre sa culture et la nôtre pour dénoncer l'inacceptable. Voilà.
Alors ça, c'est jusqu'à midi et ensuite suit un repas de midi libre.
Les gens iront manger où ils veulent.
Les gens, voilà, ils iront manger.
Il y a 7 restaurants.
Il y a ce qu'il faut, hein, voilà. À Dieulefit. Alors, à 14h, une présentation de court-métrage, toujours à la halle, et ça pour 3h. Donc, des court-métrages autour du même thème, je suppose.
Oui, alors... nous tenions à avoir un film réalisé par un artiste en exil. Nous en avons un petit, parce que sinon ça aurait été un peu trop compliqué. Ce sont souvent des films qui n'ont pas de sous-titrage, qui sont assez souvent donc en langue arabe ou en anglais. Et nous avons trouvé un film de 4 minutes, réalisé par un jeune réalisateur syrien qui est exilé à Paris, qui va être mis à notre disposition par l'Atelier des artistes en exil, qui est une structure culturelle importante de Paris. Et donc, qui doit se nommer, vous avez le titre sous les yeux.
Administration VS Croissant.
Voilà, ce petit court-métrage qui est assez intéressant parce qu'il est très humoristique sur la façon dont un réfugié ou quelqu'un qui veut quand même pouvoir vivre dans notre pays a une masse énorme de documents à fournir. Voilà, alors il réfléchit, il pense à tout ça pendant qu'il prend son petit déjeuner chez un ami et c'est un peu pour lui une montagne à franchir qui va être très difficile, il le sait. Mais voilà, c'est une façon très intéressante d'aborder ce problème très grave. Hein. Et puis ensuite, nous aurons le court-métrage d'Emmanuel Villard. Ou c'est dans cet ordre ou l'autre, enfin qu'importe, qui s'appelle Les enfants d'Empateba. Il s'agit en l'occurrence d'un artiste qui est devenu slammer et qui a gardé des contacts avec sa langue d'origine peul, mais qui en même temps a fait un travail en quelque sorte de mélange, de mixage, d'enrichissement avec la langue française. Voilà. Et c'est quelqu'un qui réside dans la région de Bordeaux, mais qui en même temps qui a sa famille là-bas et qui a toujours de contacts très importants au Sénégal. Voilà. Et puis alors le suivant, c'est il faudrait aussi me rappeler.
Alors Histoire singulière dans une France plurielle.
Voilà. Alors Histoire singulière dans une France plurielle, c'est une aventure que je connais bien parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui a participé avec entre autres Patrick Viron qui est documentariste et qui habite maintenant dans la vallée de la Drôme. Et en fait, c'est un travail qui a été effectué à la fin des années 90 à Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. Et c'est très intéressant parce qu'il s'agit de la confrontation par le montage d'interviews de 7 personnes différentes, venant de 7 horizons différents, voilà, dont un réfugié de la guerre d'Espagne, la personne la plus âgée du groupe, une jeune Algérienne réfugiée également en France. Et tous ces gens, en quelque sorte, dans le montage du documentaire, se répondent sur toutes les thématiques de comment j'ai été accueilli, comment je vis en France, comment, quelle place j'y occupe, quelle langue, quelle culture, voilà, pour ce documentaire-là.
Ce qui se passe actuellement au niveau des migrants et de ces bouleversements à travers la planète, est-ce que pour vous, vous percevez plus d'activité ou une demande plus grandissante auprès de vous pour être présent à ces festivals Voix d'exil ?
Mais je pense qu'il y a effectivement une plus grande attention. Alors après, est-ce que ça se traduit par une plus grande fréquentation de ce qui est proposé par des organismes culturels ? Ça, c'est à voir. Hein. Mais je pense qu'il y a une plus grande attention et le fait même qu'il y ait eu une quinzaine autour de l'exil avec une multitude de propositions de type culturel et politique me semble plutôt intéressant. Hein, et je pense que nous aurons là, nous aussi, une fréquentation tout à fait intéressante parce que, en plus, il y a une diversité de propositions, ce qui fait qu'on va rencontrer divers publics. Et l'attention, en dépit d'une crispation autour de l'immigration, autour des migrants, autour des exilés, parce qu'il y a quand même une crispation politique certaine. En dépit de cela, je pense qu'il y a une approche plus importante qu'avant.
Est-ce qu'on pourrait ressentir, et au fil de l'histoire même, une perception très différente des gens de pouvoir et celle de la population vis-à-vis des migrants ?
Ça, c'est très variable. C'est très variable et ça dépend des d'autres circonstances. Je regardais l'autre jour l'histoire d'une nation sur France 2 avec toute la période 60, 50, 60, 70, avec les migrants qui n'étaient pas des migrants puisqu'ils venaient de départements français, hein, d'Algérie. À l'époque, il y avait une concordance entre les positions politiques globalement des dirigeants et, et d'une large fraction de la population. Et après, les choses ont été différentes. Je pense qu'en ce moment, les choses sont très compliquées parce qu'il y a une partie de la population qui exprime beaucoup de sympathie et surtout d'humanisme face à ce problème, en nette contradiction avec les dirigeants, nos dirigeants, enfin pas tous d'ailleurs, hein, n'exagérons pas, parce que ça dépend aussi des niveaux, hein, départements, régions, voilà, et partis politiques. Mais voilà, ça, ça dépend des moments, hein, ça.
Alors à 18h, le Parole, donc l'ex-librairie Prétexte, c'est, le Parole est toujours une librairie ou...
Non, c'était une librairie, c'est à Dieulefi, c'est un lieu qui est devenu un lieu de rencontre et d'exposition. Hein, c'est une ancienne librairie, effectivement, la librairie Prétexte. Et dans ce lieu, nous aurons une rencontre littéraire donc avec Aimé Nouché. Aimé Nouché est un Béninois. Qui a fui son pays pour des raisons un peu particulières. Enfin, on voulait absolument l'obliger à respecter ce qui se faisait dans sa famille, dans une partie de sa famille au niveau de l'animisme. Il ne voulait plus être initié. Voilà, c'est ce qui manquait, le mot qui me manquait. Il y a toujours quelqu'un dans la famille qui est initié, qui va transmettre à ses enfants, ses petits-enfants, etc. Et c'est une chose avec laquelle son père avait rompu, et lui voulait rompre également. Et il a fallu qu'il fuie son pays. Voilà. Après, d'ailleurs, sans doute l'assassinat de son père. Il a fui son pays, il s'est retrouvé, grâce entre guillemets, à des passeurs, mais pas du tout dans les circonstances dont on parle souvent. Il s'est retrouvé à Kiev en Ukraine, donc voyage en avion. Sauf que quand on arrive à Kiev dans les années 2000, c'est tout à fait différent de ce qui se passait peut-être 30 ou 40 ans plus tôt, quand on accueillait dans l'ex-URSS, des étudiants africains pour les convertir au communisme. C'était pas... Et là, maintenant, on n'est plus là du tout, du tout. Et on est dans une attitude extrêmement agressive, raciste, nationaliste. Et en fait, bon, voilà, ils sont toujours accueillis, mais on essaye, on veut s'en débarrasser. Donc, il a eu un long parcours en Europe centrale. Avec des allers-retours entre l'Ukraine, la Slovénie et l'Ukraine à nouveau. Il a fini par se retrouver à Paris, où il a pu rejoindre quelqu'un qui avait aussi fui le Bénin pour d'autres raisons. Voilà. Alors, Aimé Nouché vit en France actuellement. Et il a écrit donc ce livre, « Les chemins de l'exil » ou « La route de l'exil ». Voilà. Et en fait, il nous fait la gentillesse de venir nous parler de son livre. Il est actuellement en formation à Saint-Étienne, pour s'établir de façon la plus importante possible avec un métier en France.
À la suite, à 19h30, à la Halle, de nouveau, la soupe des exilés avec participation aux frais de 10 euros par personne.
La soupe des exilés, c'est une tradition depuis le début de nos voies d'exil. La première soupe des exilés a été servie dans une forêt, dans un bois autour de Bourdeaux, hein, le bois de Vache, où il y avait un lieu de culte au désert. Très impressionnant d'ailleurs, et suite à un récit qui a été mené à l'époque par Christian Jean-Marc, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques jours, nous avions servi une soupe Alors, qui a été conçu par des membres des Nouvelles du Compte, sachant que les Nouvelles du Compte sont maintenant porteurs de l'événement. À l'époque, nous étions que partenaires. Qu'importe, depuis 8 ans, on propose une soupe à base de châtaigne, entre autres, à nos spectateurs de l'un des spectacles des Rencontres Voix d'Exil. Voilà. Et là, ce sera donc à la Halle, avant quelque chose, avant une performance. Performance qui est tout à fait quelque chose d'étonnant et qui sera sans doute une grande découverte. Le titre exact, X contre préfet, plaidoirie pour une jurisprudence. Alors X, c'est un réfugié, voilà. Et en fait, les gens qui ont mis au point ce spectacle il y a plus de 10 ans maintenant, ce sont 4 avocats. Qui sont de vrais avocats, ce ne sont pas des acteurs, même si l'un d'entre eux a beaucoup d'affinités avec le monde du théâtre, du conte, mais enfin, son métier, c'est d'être avocat. Là, nous en aurons 2 avec nous. Et en fait, ces avocats ont mis au point une plaidoirie qu'ils font partager avec le public, puisque nous fournirons au public, à leur demande, un ensemble de documents, de recueils de documents juridiques. Voilà. Et la plaidoirie, il s'agit pour les avocats d'inviter la présidente d'un tribunal administratif, qui représente le préfet, dans tous les cas, à casser une décision de reconduite à la frontière pour un immigré, et en considérant que cette personne réfugiée est co-auteur et dépositaire d'une œuvre immatérielle par lui-même, puisqu'il porte une culture. Et à ce titre, comme il est dépositaire d'une œuvre immatérielle, à ce titre, il est protégé par des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Donc ce sont des gens qui ont, je dirais pas qu'ils sont amusés parce que c'est pas si simple que ça, mais qui ont essayé de mettre en exergue comment on peut s'opposer à des décisions carrées, qui appliquent la loi sans regarder rien du tout à côté, sans regarder les personnes, sans regarder ce dont elles sont porteuses. Voilà. Et ce spectacle, performance, a beaucoup circulé depuis 2007. Il y a, je crois, 4 ou 5 ans, il a été présenté par le Centre du patrimoine arménien à Valence, il y a 5 ans. Nous avions envisagé d'ailleurs de le faire venir pour notre festival des Nouvelles du Conte. C'est une narration hein, aussi. Mais en fait, bon, là, il se trouve qu'il est là. Et je pense que ça va être une grande découverte. Et j'invite vraiment tous les curieux de manifestations un peu étranges, étonnantes, à découvrir cette performance.
Cela clôt donc cette journée du 20 octobre. Cette séance est ouverte, hein, c'est-à-dire qu'elle est en entrée libre.
Oui, les séances, à part le concert qui fait partie de la programmation culturelle du Château de Poët-Sélard, toutes les autres activités sont gratuites et à entrée libre.
Ensuite, le dernier jour, dimanche 21 octobre, à Poët-Laval, à 11h, au musée du protestantisme dauphinois, une rencontre littéraire est prévue avec Bernardo Costa pour La beauté terrible de la vie ici-bas.
Oui, oui. Alors déjà un mot sur le lieu. Ce lieu est très emblématique puisque c'est le... Il a été considéré comme Poët-Laval, comme le point de départ du chemin sur les pas des Huguenots, parce que c'était un point de rassemblement, effectivement, de cette place forte du protestantisme avant la révocation de l'édit de Nantes. Et il y a là donc un musée que certains des auditeurs connaissent peut-être, hein, parce qu'il est ouvert depuis fort longtemps. Et là, nous aurons une rencontre avec Bernardo Costa. Alors, Bernardo Costa, c'est un exilé d'assez longue date. Il est uruguayen, il vient donc d'Amérique du Sud. Il est actuellement installé dans la banlieue, si je puis dire, de Cray, pas très loin, dans la vallée de la Gervanne. Et c'est quelqu'un qui a eu un très long parcours, qu'il a raconté dans un roman qui est là aussi pour une bonne part autobiographique, qui part de l'Uruguay, où il a participé au mouvement des Tupamaros, qui s'opposait à la dictature en Uruguay. Et ensuite, il a fait un détour par le Chili, où, avant 1973, avant ce moment où il y a eu un coup d'État, le coup d'État de Pinochet. Là aussi, il a fallu partir, se retrouver à Cuba. Et ensuite, il s'est retrouvé en France après un détour que nous apprenons dans son roman, en fait, par le Portugal et l'Espagne. Par le Portugal, parce qu'en fait, ses parents et les parents de sa sœur étaient d'origine portugaise, étaient eux-mêmes migrants en Amérique du Sud. Voilà. Donc c'est une grande histoire de famille, de migration et de lutte également. Et là, on est dans une migration dans un domaine plus politique. Et Bernardo Costa viendra nous parler de son ouvrage.
Adieu le fille, à 15h, à l'EHPAD Les Échirous, un conte-spectacle qui sera proposé par Kamel Zawawi et qui s'intitule « Regarde plutôt la mer ».
Oui, alors un petit mot sur... la collaboration avec l'EHPAD Les Échirous, c'est quelque chose que les nouvelles du conte ont commencé cette année au mois de mai. Une rencontre, d'autant que l'une des conteuses qui est dans l'équipe des nouvelles du conte travaille dans un cadre culture et santé avec cet EHPAD. Et en fait, nous avons mis au point donc cet après-midi-là, parce que c'est un partenariat qui nous semble très important dans le cadre de nos missions Nouvelles du Conte. Et donc après Voix d'Exil, puisque nous portons l'événement, et avec un public qui ne peut pas se déplacer. Voilà, ou qui a quelques difficultés à aller à des soirées de contes ou à des rencontres avec des auteurs. Donc là, nous avons avec un conteur, Kamel Zouaoui, qui est d'origine algérienne et qui vit en France et depuis longtemps. Et nous avons mis au point cet après-midi-là, autour de d'un grand conte, d'un grand récit qu'il a écrit, qui tourne un peu autour de son grand-père, de son oncle, immigré algérien, mineur à Saint-Étienne. Et « Regarde plutôt la mer », c'est en fait, en quelque sorte, le retour du fils, du petit-fils, pour aller redécouvrir son pays. Puisque à un moment donné, quand même, il faut bien aller voir d'où on vient. Voilà. Et ce spectacle sera est vraiment très très beau, très touchant, très émouvant. Et bien entendu, même si on est dans l'EHPAD Les Échirous, il y a un lieu dans cet EHPAD, une salle qui permet de recevoir des spectacles. Et bien entendu, c'est ouvert à tout le monde. Hein, il y aura évidemment des résidents, il y aura sans doute des familles de résidents, c'est un dimanche après-midi, mais nous espérons qu'il y aura des citoyens de Ulfi et d'ailleurs qui pourront venir écouter Kamel Zouaoui, qui est un merveilleux conteur.
Pendant la durée de ces 4 journées, il y aura aussi des expositions, particulièrement à la médiathèque du pays de Bordeaux, avec des expositions de dessins, de cartes. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots ?
Oui, c'est quelque chose de très particulier. Ce sont des cartes qui ont été réalisées par des groupes d'enfants de deux collèges. L'un dans la banlieue lyonnaise, à Vaux-en-Velin d'ailleurs, et l'autre à Roanne, et avec l'aide d'un organisme qui a beaucoup travaillé sur l'exil autour des enfants d'Izieux. Et ces cartes dites géosensibles, ce sont des cartes parfois en relief, parfois à mettre à plat, qui ont été réalisées donc par une douzaine d'enfants, plus d'ailleurs, mais nous n'en aurons qu'une partie, qui sont tous issus, de façon plus ou moins lointaine, de l'immigration. Voilà. Et donc des enfants de collège. Et elles seront donc pendant quelques jours, pendant tout, au moins toute la durée de notre manifestation à la médiathèque de Bordeaux. Nous avons également demandé, dans le même ordre d'idées, nous avons également demandé à deux libraires de mettre un peu en évidence, en exergue, un certain nombre d'ouvrages autour de l'exil et de l'immigration. Donc la librairie Sceaux et Gambade, qui est maintenant un partenaire très important pour nous, la librairie Sceaux et Gambade à Dulfi, et la librairie La Balançoire à Cray. Voilà, de mettre en exergue un certain nombre d'ouvrages, je pense entre autres à ceux de Laurent Godet, qui depuis fort longtemps écrit sur ces questions, Olivier Norek, qui a eu un prix à Saillant il n'y a pas très longtemps, là, du roman policier, et qui a écrit sur Calais et l'exil de Syrie, et quelques autres, et puis aussi quelques ouvrages spécialisés, qui seront sans aucun doute présents pendant le séminaire à la salle des fêtes de Bordeaux.
Voilà. Alors, Voix d'Exil, il y aura aussi certainement un site internet pour que le public puisse se documenter ou s'informer.
Non, il y a essentiellement, il n'y a pas de. Enfin, je pense que sur le site, sur les pas des Huguenots, on peut aller voir, puisque c'est un événement lié à l'association internationale sur les pas des Huguenots, puisqu'elle est internationale quand même. Hein, et pour un certain nombre de raisons, on n'a pas pu le mettre sur les sites du compte aujourd'hui, en ce moment. C'est un peu compliqué pour nous. Et à part ça, il y a des documents, dans celui que vous avez entre les mains, à l'office de tourisme, à la médiathèque, ici, et sans doute chez quelques commerçants de Die, qui s'appelle Tout un art. Voilà.
Eh bien, Joël Miachon, merci d'être venu nous présenter cette édition de Voix d'Exil 2018 qui se déroule du 18 au 21 octobre 2018 et qui s'intitule Tout un art.
Merci
Bonne
de
soirée.
M'avoir reçu.
Alors, au revoir.
Au revoir.
Interview.
Okay. Bye.